toujours dans l'élan de ce thème de l'amour de Dieu à l'épreuve de toutes les situations par lesquelles nous passons, je voulais vraiment ce matin partager peut-être un message que vous avez déjà entendu de moi, je ne sais pas, j'hésite parce que je n'ai pas mis de date là-dessus, mais ça m'a vraiment, j'ai trouvé que ça cadrait bien avec le thème que je voulais, que j'ai voulu avoir comme fil conducteur tout au long du culte. Le thème, c'est que faire dans la galère, que faire dans l'épreuve, que faire dans la souffrance, lorsque je suis acculé, lorsque je suis éprouvé, mais d'une manière tellement forte que je ne sais plus quoi faire, que faire à ce moment-là, quelles ressources, où puiser mes ressources, où trouver des ressources. Et je voudrais que nous puissions verser un peu la vie de David, le roi David, à travers cette histoire avec son fils Absalom, pour essayer de voir un peu là-dedans quelles sont les choses qui peuvent nous conduire, nous aider, nous entraîner. Alors nous allons donc le faire. D'abord nous allons lire le texte, les textes, et puis on va prier et on va commencer le message. Donc, 2 Samuel, chapitre 15, du verset 13 au verset 16. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent, « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Chapitre 16, du verset 1 au verset 14. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Mephibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes battés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 fruits, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Et le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Tsiba répondit au roi, voici il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tsiba, voici tout ce qui appartient à Mephibosheth est à toi. Et Tsiba dit, je me prosterne, que le Seigneur trouve grâce à tes yeux, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saul, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Et David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Japhé, à Ajéphim, Et là, ils se reposèrent. Dernier extrait, verset chapitre 17, du verset 29, du verset 27 au verset 29. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabba, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et Barzilai, le Galadite, de Roguelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème des brebis et des fromages de vaches. Ils apportèrent toutes ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Un extrait long pour raconter une histoire qui était véritablement un drame. Un drame d'un père qui est trahi par son propre fils. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle est magnifique. Elle est merveilleuse. Elle nous donne tellement d'enseignements. Que ce matin encore, chacun pour sa part, reçoive ce que le Saint-Esprit veut lui dire. Et qu'ainsi cette parole qui dit que le Saint-Esprit s'exprime et que nous avons à entendre ce que l'Esprit dit, se réalise dans les vies de chacun. Merci Seigneur pour ce que nous pouvons partager à travers ce texte. Conduis-nous Seigneur dans sa lecture et dans sa méditation, au nom de Jésus. Amen. Que faire dans nos galères? Que faire dans nos situations difficiles lorsque nous sommes acculés, lorsque nous ne savons plus comment faire, lorsqu'on est complètement désespéré? Le thème de ces extraits que je viens de lire dans le livre, dans le deuxième livre de Samuel, font partie de cette histoire, l'histoire de la révolte d'Absalom contre son père, le roi David. C'est l'histoire du coup d'État. C'est Absalom qui veut prendre la place de son père, qui veut devenir roi à la place de son père. Pour faire court, qui est Absalom? Absalom, c'est l'un des grands fils de David. C'est le troisième garçon. C'est un garçon qui est le frère de Tamar. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de l'histoire avec Tamar. Tamar, c'est une des filles du roi David qui s'est fait violer par son frère Amnon, son demi-frère en quelque sorte. Et Absalom était tellement fâché par cet outrage causé à sa sœur qu'il avait promis de faire mourir son frère, son demi-frère. 2 ans après, il a fait assassiner son frère. Et cela était tellement grave qu'il a dû être banni du royaume pour échapper à la justice. Il est parti. Il est parti parce que, en fait, Absalom, il a le sang royal des deux côtés. Son papa est roi, mais sa maman est une princesse, la fille d'un roi, d'un petit royaume qui s'appelle le Guichard. Et donc, il est allé du côté maternel, il est allé se cacher dans ce royaume-là. 2 ans après, on a fait des tractations pour qu'il revienne. Absalom est revenu, et quand il est revenu, il a commencé à fomenter un coup d'État. Il a senti que le peuple pouvait aller vers lui. Il a senti qu'il pouvait rester. Il est décrit comme un homme très intelligent, un homme très beau, un homme très charismatique. C'est quelqu'un de séduisant. Absalom a aussi, et peut-être c'est le plus grand défaut qu'il a, c'est qu'il est vraiment, vraiment orgueilleux. Il est très fier de lui, il est très orgueilleux. Il veut être roi à la place de David, son père. Il va être roi en ignorant que cette royauté dont David est le roi est une royauté dans un contexte théocratique, c'est-à-dire une royauté installée par Dieu. C'est Dieu qui choisit le roi. C'est Dieu qui installe le roi. Mais Absalom, il compte sur sa force à lui, sur son intelligence, sur sa capacité personnelle. Il compte sur l'appui politique qu'il peut avoir de tous ces hommes qui n'aiment pas David et qui veulent le remplacer. Et le coup marche. Pendant 2 ans, il se tient dans la ville, il parle avec les gens, il discute avec les gens, il amène les gens à se soulever. Et lorsque cela est fait, nous tombons dans le contexte de ce texte qu'on vient de voir, le coup est fait, le voilà qui marche sur Jérusalem. Et il va prendre le contrôle de Jérusalem et de là commencer à prendre le contrôle des autres petits endroits du pays. David, lui, tout roi qu'il est, préfère s'enfuir. Il préfère s'enfuir plutôt que faire face à son fils. David est bien équipé. Il a une bonne armée. C'est un excellent soldat. D'ailleurs, toute sa vie, il n'a été qu'un soldat. Dieu avait même refusé qu'il fasse le temple en disant « Tu as des mains de sang, des mains tachées de sang. » C'est un excellent soldat. Il est bien organisé. Il a avec lui des généraux, mais expérimentés. Abner, Joab, etc. C'est des généraux vraiment expérimentés. Mais le voilà qui décide quand même de s'enfuir. Pourquoi ? Pourquoi n'affronte-t-il pas son fils ? Pourquoi n'affronte-t-il pas Absalom ? La réponse, c'est que, d'une part, il ne veut pas la mort de son fils. Il aime son fils. C'est extraordinaire. Son fils lui en veut à mort, mais lui, il aime son fils. Il préfère éviter une confrontation avec lui qui va causer la perte de son fils. Et je veux dire une chose encore. Même lorsqu'il sera question de guerre, parce que malheureusement, il sera question de guerre à un moment donné. Ce n'est pas dans cet extrait qu'on a lu, mais il sera question de guerre après. Même quand il y aura la guerre, il va interdire à ses généraux de porter la main sur la vie de son fils Absalom. Et lorsque malheureusement Joab va lui couper la tête, parce que c'est comme ça qu'Absalom va mourir, on va lui couper la tête, eh bien David va en vouloir à Joab pour le reste de sa vie. Il va pleurer son fils comme si son fils ne lui avait jamais fait du mal. Revenons à ce contexte. Pourquoi est-ce qu'il s'enfuit ? Je viens de le dire, peut-être une première raison, c'est parce qu'il veut éviter la confrontation avec son fils, une confrontation qui sera mortelle pour son fils. Mais la deuxième raison, c'est que David, il sait que Dieu est dans l'affaire. C'est, pour lui, s'il n'attaque pas, s'il ne réagit pas, s'il ne se défend pas, c'est parce qu'il sait que ce pouvoir a été reçu de Dieu. Parce que ce qui arrive, Dieu le voit, Dieu le sait. Il cherche comment agir dans la manière dont Dieu voudrait que les choses se résolvent. Il cherche la voie de Dieu. Il ne veut pas trouver ses solutions à lui en tant qu'être humain. Il cherche où est la voie de Dieu, où est Dieu là-dedans. Il a été sacré roi parce que Dieu l'avait choisi. Il a vaincu les ennemis parce que Dieu était avec lui. Donc cette situation ici, Dieu n'est pas absent. Dieu est avec lui encore. Alors, puisque Dieu est avec lui, il ne peut pas réagir n'importe comment. Regardez comment il agit avec Shimei, cet homme de la famille royale du roi Saül, qui l'insulte, qui dit que c'est une bonne récompense. David n'a que ce qu'il mérite, puisque, après tout, pour Shimei, c'est David qui est à la base de la mort du roi Saül. Mais si vous connaissez le contexte biblique, c'est faux. David n'est pas à la base de la mort de roi Saül. Le roi Saül est allé faire la guerre contre Amalek, il est mort sur le champ de bataille. Il était entouré d'ennemis, son fils Jonathan venait déjà de mourir, et il a demandé à un de ses soldats, de le tuer plutôt que qu'il soit fait prisonnier par les ennemis. David n'a rien à voir. Mais lui va dire, c'est ta faute, Dieu te fait payer le crime du roi Saül et de son fils Jonathan. Il oublie que Jonathan était le meilleur ami de David. Mais David aurait pu, face à ce mensonge, dire ben, à Abishai qui le demandait, ben, vas-y, va lui trancher un peu la tête là-bas. Il ne comprend rien, coupe-le, tue-le, c'est quoi, fais-le taire, quoi. Mais David va donner une réponse remarquable. Il va dire, qui sait si c'est l'Éternel qui me met ainsi à l'épreuve? Pourquoi ferais-je ça? Dieu seul sait. Peut-être même que si je me laisse entre les mains de Dieu, la malédiction dont parle cet homme-là, peut-être ce sera sûrement la malédiction d'aujourd'hui. Peut-être Dieu tournera ma malédiction en bénédiction. Toute la confiance de David est en Dieu. Ce qui me frappe dans ce texte, hein, c'est le fait que David ne s'attarde pas sur les circonstances autour de lui. Tout ce qu'il veut savoir, où est Dieu? Que puis-je faire pour Dieu? Moi, je trouve ça frappant. Nous allons voir dans le psaume 3. Le psaume 3, c'est le psaume de, justement, que David a écrit, justement, dans cette situation, à l'occasion de sa fuite. Vous voyez d'ailleurs, c'est écrit, psaume 3, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi? Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu? Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Voilà la prière que fait David au comble de la trahison, au comble de l'épreuve. Une autre chose aussi qui me frappe, je vais survoler rapidement parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à trouver là-dedans. Une autre chose qui me frappe, c'est que malgré la fuite, malgré la peur, David et ceux qui l'accompagnent trouvent de l'aide, trouvent de la nourriture. C'est pour ça que j'ai pris plein de versets qui parlaient de nourriture, qui décrivaient les différentes choses qu'ils avaient reçues, les fromages, les miels, enfin bref. Ils trouvent de la nourriture, ils trouvent de quoi manger, ils trouvent même des lieux pour se reposer, malgré le combat. Et cela ne se passe pas une seule fois, ça se passe à tous les relais. Malgré l'épreuve, malgré la situation difficile et stressante, David trouve encore des gens sur son chemin pour lui apporter le soutien et l'aide. Je trouve ça extraordinaire. La galère de David. Peut-être juste répercuter cela sur notre vie d'aujourd'hui aussi. Nous aussi, nous sommes souvent dans la galère à cause de l'aggravation du péché, à cause de la méchanceté des hommes. Nous sommes exposés à la trahison, à la méchanceté des autres. Comme David, de temps en temps, nous sommes obligés de battre en retraite. On est dans nos droits, mais on doit battre en retraite. On a raison, mais on doit agir comme si on avait tort. Parfois aussi, nous commençons une traversée dans le désert. Une situation où on n'en sort pas. On est dans l'incertitude. On ne sait pas. Autour de nous, on ne voit que de l'adversité, que du combat, que de la guerre, que des problèmes, que des soucis. On commence une traversée du désert, comme David. À cause de plusieurs problèmes, d'injustices, des imprévus. Que faire dans l'adversité? Que faire lorsque l'adversité nous accable? Au travail, à l'école, dans notre famille, même parfois dans l'église, malheureusement. Malheureusement. Parfois dans l'église, malheureusement. Que faire? J'aimerais peut-être juste tirer trois choses. Première chose, David commence d'abord par maintenir une relation de face à face avec Dieu dans son épreuve. il ne regarde pas ce qui se passe. Il ne regarde pas au coup qu'il reçoit. Il ne regarde pas la dureté des épreuves. Il ne regarde pas aux imprévus, aux changements, aux contretemps, aux trahisons, aux difficultés. Il voit pas, il ne regarde pas l'aggravation de sa situation, de son malheur. Non, David maintient ce face-à-face avec Dieu. Il garde sa foi en Dieu. Il dit, Seigneur, vous avez vu le psaume 3. Mes ennemis sont nombreux et mes yeux sont sur toi. Mais toi, mon Seigneur, mon roi, tu es ma gloire. Tu es mon bouclier. Au milieu de cette épreuve, David regarde à Dieu. Il ne regarde pas aux hommes. Il ne regarde pas aux circonstances de la vie. Il regarde à Dieu. Il développe un face-à-face. Il se réfère à Dieu. Il se demande où est Dieu dans cette épreuve. Quelle direction me montre-t-il que je dois suivre? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, ouvre les yeux, indique-moi quelle route, quel chemin suivre. Première chose importante. Et vous avez vu, ce face-à-face est tellement important pour David que David va même s'imposer le devoir de ne pas se faire justice à lui-même. C'est un roi. Il aurait pu trancher la tête de Shimei. Il aurait pu, sur son chemin, confisquer les choses, prendre des choses de force. C'est le roi. Non, non. Dans le face-à-face avec Dieu, David continue à faire le bien. Il continue à aimer son prochain, malgré la méchanceté. Extraordinaire, vous ne trouvez pas? On serait rempli de colère et de haine. Non. Continue à faire du bien aux gens. Laissez-le vivre. Laissez-le parler. Qu'il dise ce qu'il a à dire. C'est pas grave. Deuxième chose, je vais essayer d'être court parce que c'est un texte, voyez-vous, aujourd'hui je vous ai vraiment partagé des choses qui me sont vraiment particulières. Et ça fait partie de ce texte qui m'a beaucoup aidé dans mes épreuves. Quand j'y réfléchissais, je le méditais, j'ai trouvé des éléments qui me disaient, non, tu ne peux pas agir comme ça. Non, tu ne peux pas répondre comme ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Parce que j'ai vu dans l'exemple de David. Deuxième chose importante. David va profiter des moments de répit pour reprendre de la force, pour souffler. Voyez-vous, souvent nous, quand nous sommes dans les épreuves, nous sommes tout le temps accrochés à cette épreuve. On est tout le temps là-dedans. En réalité, dans une épreuve, David prend du recul. Il prend le temps de souffler. Il prend le temps de se reposer, de refaire des forces. Et Dieu permet que nous ayons des oasis au milieu de nos déserts. Oui, Dieu le permet. Dieu permet que dans nos déserts, nous ayons des oasis, des petits endroits où nous pouvons nous restaurer, faire le point avec nous-mêmes, reprendre des forces pour tenir. Ce n'est pas des endroits où j'ai trouvé la solution à mon problème. Non, mon problème, il est encore entier. C'est juste l'endroit où je... Pour qu'après, je recommence ma traversée du désert. Et Dieu pourvoit à cela. On a vu ça à travers la vie de David. Il trouve des relais sur son chemin. Des gens qui sont là pour pouvoir. C'est Dieu. C'est la main de Dieu qui fait ça. Soyons sensibles à ça. Dans nos épreuves, soyons sensibles à ça. Au fait que Dieu nous permet d'avoir parfois un moment où nous soufflons. Quelqu'un qui vient nous encourager. Qui vient nous donner un petit oasis au milieu de l'adversité. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais encore tout jeune, à l'âge de 15 ans, j'avais l'honneur d'être nommé dirigeant des élèves. Vous imaginez toute une école de 900 élèves. Et moi, on m'a nommé par le recteur de l'école comme étant le représentant adjoint de tous les jeunes. Mais ce n'était pas une école facile, parce que ce recteur était un margoulin. En fait, c'était un internat. Et lui profitait de l'argent de poche des élèves et de réserves de nourriture en boîte de conserve que les parents donnaient pour aller faire son petit commerce. Et ce qui devait arriver arriva, les élèves se sont révoltés. Ils ont commencé à tout casser. Et puis, moi, le petit représentant des élèves, avec des élèves de 17 ans, 18 ans, parfois 19 ans, qui étaient devant moi, et moi, que je n'avais que 15 ans, je devais tenter de les calmer. Vous devinez ce qui se passe par la suite. Ils vont m'en vouloir, bien sûr. Toi, le petit, là, qu'est-ce que tu as à dire? Et voilà que... je sens tout d'un coup que ma vie est menacée. Je dis, ça va. Qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre dans mon petit coin et j'essaye de suivre les événements de loin parce que je ne tiens pas à ma vie. Surtout que le représentant principal, donc celui qui était avant moi, lui s'était fondu dans la masse. Hein. Il était dans les rebelles. Hein. Donc, il était complètement gagné à la cause de la rébellion. Mais moi, comme j'étais neutre, j'essaie de calmer le jeu, eh ben, j'ai eu des problèmes. Et donc, je suis allé me mettre dans mon petit coin, tout seul. Mais mon oasis a été que quelques élèves sont venus m'entourer et sont restés avec moi. Ils ont dit, puisque tu vas avoir dur, nous, on va rester près de toi, pour rester avec toi, pour que tu ne sois pas seul, mais aussi... au cas où les autres t'en voulaient pour te frapper, on va te protéger. Ça fait du bien. Dieu permet parfois des oasis dans nos vies, dans nos épreuves, pour que l'épreuve, nous puissions le soutenir. Regardez le peuple d'Israël dans la marche dans le désert. Ils n'ont pas eu que le soleil ardent qui les brûlait tout le temps. Ils n'ont pas eu que des problèmes. Ils ont eu des moments aussi où il y a eu beaucoup de joie. Il y a eu beaucoup de tranquillité, où il y a eu le repos, l'arrêt. Deuxième chose importante, et tant mieux qu'il en soit ainsi dans nos épreuves, tant mieux qu'il en soit ainsi. Troisième chose que je voulais partager ce matin, l'épreuve exige la foi. La foi dans la possibilité de Dieu de nous sortir de l'épreuve. Vous êtes d'accord avec moi? Si je suis dans l'épreuve et que je ne crois pas du tout que Dieu m'en sortira, je serai malheureux. L'épreuve, dans l'épreuve, j'ai besoin d'avoir la foi. Et dans ce sens-là, et c'est la troisième chose que je voulais partager, c'est que nous devons apprendre à nous préparer, comme David, à nous préparer à la victoire. David, je ne l'ai pas montré dans ce texte ici, mais là-bas dans l'épreuve, malgré le fait qu'il avait perdu son trône, David se préparait à récupérer son trône. Il a mis en place tout un mécanisme qui consistait à récupérer son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il croyait dans la victoire. Il savait que Dieu lui donnerait cette victoire, que Dieu le sortirait de cette épreuve. Il se prépare en conséquence. Il voulait la victoire avec Dieu. Il sait que Dieu allait avoir le dernier mot, que Dieu allait lui donner la victoire. Et vous savez quoi? Il a eu la victoire. Son armée a battu, mais pas seulement battu, mais a vraiment massacré l'armée d'Absalom. Il est retourné à Jérusalem. Mes amis, parfois dans l'épreuve, les gens développent des réflexes défaitistes. Oh, c'est fini. Ah, oh, c'est fini. Oh, je ne m'en sortirai plus. Je ne m'en sortirai plus jamais. Ils cessent de croire que Dieu le sortira victorieusement de l'épreuve. Et vous savez, nous sommes souvent faibles. Nous sommes souvent faibles parce que notre foi n'est pas inébranlable. Nous avons une foi qui bouge, qui dépend. David avait une foi inébranlable à Dieu. David a été à l'école de la foi. Il a été à l'école de la foi. Vous imaginez, 16 ans, ou un roi à l'âge de 16 ans. pendant 14 ans, il va galérer, pourchassé par Saül, 14 ans. À 30 ans, il monte au trône, il devient roi. Vous avez déjà vu toutes les épreuves par lesquelles il est passé, avec sa famille, les meurtres, les trahisons, les viols. Et vous avez vu cette histoire avec Bathsheba, avec cet enfant qui est né, ce David qui pleure, qui demande, qui supplie à Dieu, « Seigneur, épargne la vie de cet enfant, s'il te plaît. Épargne-le, s'il te plaît. » Et en fin de compte, l'enfant meurt, comme Dieu l'avait dit. Quelle épreuve pour sa foi. Que fait David? Se révolte-t-il contre Dieu? Non! Il se lève, il se lave, parce qu'il jeûnait. En Israël, quand on jeûne, on ne se lave pas, on se couvre de la cendre, enfin bref, c'est une tradition là-bas. Et le voilà qui se lève, qui se lave, et puis il va au temple pour adorer Dieu. David n'a jamais rompu ses relations avec Dieu, il n'a jamais coupé les ponts dans l'épreuve, jamais. La foi, sa foi à lui est telle que il sait en qui il a cru. Alors, ce matin, quelle est notre situation? Comment agissons-nous dans la galère? Est-ce que nous nous souvenons que Dieu nous aime? Il nous aime tellement qu'il ne va jamais nous abandonner. Jamais, jamais. Même dans l'épreuve. À nous de nous accrocher. De continuer le face-à-face avec Dieu. De profiter des moments de répit, de ces oasis, pour lui rendre gloire. Merci Seigneur, c'est dans l'épreuve, mais je te bénis pour cette nourriture, je te bénis pour cette parole d'encouragement, je te bénis pour cette prière, je te bénis pour cette action. Seigneur, merci. Alors que je suis au comble de l'épreuve, alors que demain, je ne sais même pas comment les choses vont se présenter, vont continuer pour moi. Merci quand même, Seigneur, pour tous ces oasis au milieu du désert. Troisième chose, Seigneur, ce n'est pas une épreuve dans laquelle je suis perdant. Non, je vais sortir. J'aurai la victoire, parce que la victoire appartient à Dieu. Si dans nos épreuves, nous commençons à croire à cela, nous faisons exactement comme David. Dans le psaume 3, vous avez vu, il affirme déjà avec certitude qu'il sera délivré. Je voulais vous partager donc ce texte ce matin, parce que je voulais aussi mettre un peu en exergue aussi cette dimension de l'amour de Dieu. Dieu est très cohérent avec son amour. Nous avons, nous, à être cohérents avec notre foi en lui. Et si nous sommes cohérents avec notre foi en lui, nous saisirons alors la dimension profonde de son amour et nous vivrons dans cet amour, dans cette foi profonde. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le cheminement qu'il peut faire dans nos vies. Merci pour l'empreinte qu'il peut avoir sur nos vies. Merci pour ce que tu vas imprimer dans nos cœurs et dans nos consciences. Merci surtout, surtout pour le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Aide-nous à être des agents, des facilitateurs du travail de l'Esprit dans nos vies, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.